Hey, Miss Miller, we just need a stool sample.
Why do you need a stool sample if you think I'm just a nut?
'Cause the answer's not in your head, my dear. It's in your butt.
Bon.
Le chocolat, c'est la vie.
Exactement. Le chocolat, c'est la vie.
Le noir, hein. Le reste, c'est pas du chocolat.
Le chocolat au lait reste du chocolat, le chocolat blanc dans des...
Chocolat blanc.
Chocolat blanc,
il n'y a rien de...
Non, le chocolat blanc, c'est du gras.
Quoi, c'est du beurre.
Mais c'est du gras, c'est bien, le gras, c'est la vie.
Le gras, c'est la vie.
Le gras, c'est
la vie.
C'est vrai.
Je pense que le prochain, après Scrubs, etc., il y aura Kaamelott. Je ne peux pas ne pas faire Kaamelott.
Ah, oui.
Où est la poupoule?
Où est la poulette?
Elle est où la poulette?
Voilà. On ne parlera pas ce soir de Kaamelott parce que j'ai appuyé sur enregistrer, j'ai lancé le chronomètre. On va parler de Scrubs, et aussi appelé, attention, ne vous moquez pas, ça s'est appelé comme ça pendant une saison et puis ils l'ont changé très vite. En Belgique, ils ont voulu appeler ça Toubib or Not Toubib.
Et en France aussi. En France aussi.
En France aussi, cool. Mais c'est pendant une saison aussi. C'est
ça ça a duré plus longtemps. Enfin, sur les programmes télé, il y avait pas mal Toubib ou Not Toubib. C'était pour les premières saisons, en fait.
Ouais, voilà. Bon, ça n'existe pas. Ça s'appelle Scrubs. Je ne dirais pas que la version française n'existe pas, ce qui est faux, parce que c'est une des rares qui est vraiment très très bonne. Bon, on aura peut-être un débat là-dessus, parce que je sais pas, peut-être qu'ils ne seront pas d'accord. On est beaucoup aujourd'hui. Hein, il suffit de dire Scrubs, et il y a du monde qui vient. Donc, Kaamelott, on va être deux fois plus, je pense. avec nous, y a l'habitué, mon bras droit, Elodie.
Ta jambe gauche.
Ma jambe gauche, mon hémisphère droit. Elodie de letélégraphe.com.
Oui, bonsoir à tous.
Voilà, on n'a pas Romain, on n'a pas Docteur Série, ce qui est con pour un docteur de ne pas être là pour Scrubs. C'est quand même vachement très très con. Ouais. Par contre, on a un revenant. Et pourtant, on ne parle pas de zombies, contrairement à Walking Dead dans un mois. On a Florian Etcheverry, Lord of Noise, qui est
bonsoir, là. Bonsoir à tous.
Voilà, il s'est rappelé qu'il y avait un podcast et qu'il pouvait venir de temps en temps.
Oui, c'est ça.
Voilà. Et on
a dit Scrubs, en fait.
On a dit Scrubs, et ça, voilà, t'as vu la lumière, t'es rentré.
Exactement, exactement.
Et alors, avec nous, on a aussi Cécile.
Coucou.
Là, moi, c'est mon côté docteur qui a fait que je suis venue.
C'est ça, c'est le côté médecine, voilà, femme de science.
C'est ça.
Voilà, et non pas Cécile de Mini Boobs que j'ai voulu taper la dernière fois. Je la retiens depuis la dernière fois. J'ai pas pu le faire pendant deux émissions. Je suis désolé.
Ah mon pauvre, j'étais torturé par ma faute. Je suis désolé.
Ouais, voilà, il fallait absolument que je fasse Cécile de Mini Boobs. Et on a deux. Bisous, hein, pour rester dans le thème de Scrubs, hein, de bisous.
C'est ça.
Avec Pauline, on va t'appeler. Absolument. Pauline ou Lalou ?
On va m'appeler Pauline, c'est très bien.
Voilà, on m'appelle pas, on vient me chercher. Toi, tu n'as pas de blog ?
Alors moi, j'ai pas de blog, mais je suis journaliste pour le site Star Agora.
Voilà, donc on a quelqu'un qui travaille réellement.
On a quelqu'un de légitime.
En plus
ici.
De Florian. Il y a quelqu'un de légitime. Voilà. À moins que Wyatt, donc Guillaume, je vais t'appeler Wyatt ou Guillaume ?
Wyatt, vu que tu vas le diffuser.
Ouais, Wyatt. Oui, je vais le diffuser, je pense qu'on va pas le garder pour nous.
Non, mais sur Twitter, je voulais dire ça.
Hein, d'accord. Donc Wyatt, qui lui est sur Twitter.
Ouais,
et c'est tout ?
Non, j'étais chez Small Things il y a quelques mois, mais ça fait longtemps que j'ai pas écrit d'article.
Ah, d'accord. Tu y étais, mais tu n'y es plus vraiment. Voilà, et alors donc, toi avec Florian et Pauline, vous êtes donc des grands fans de Scrubs, c'est d'ailleurs pour ça que vous êtes venus. Et ouais. Face à vous, on a Elodie et Cécile qui... ce qui est bien, c'est que sur Skype, c'est rangé pareil, c'est cool. Il y a Elodie et Cécile qui, elles, ont vu des épisodes, ont vu toute la série, mais ne sont pas fans. Mais en tout cas, ne sont pas aussi calés et tordus que l'on peut l'être. Par rapport à cette série de donc Bill Lawrence. Par contre, ça, si je dis Bill Lawrence, il y a Cécile qui est en pâmoison. Ah, vas-y, Bill.
Ah, oui.
C'est le nom de sa sextape. Oh, vas-y, Bill. Donc voilà, on va... Je vais rapidement faire un petit tour de ce qu'est Scrubs. On va pas être trop là-dessus parce que c'est pas le but. Le but, c'est juste de discuter à propos de Scrubs, pourquoi on l'aime, pourquoi il faut la regarder et pourquoi il faut lui ériger une statue. Oui, c'est n'importe quoi ce que je raconte.
Non, non, c'est tout à fait pertinent.
C'est tout à fait pertinent. Bon.
Ça vient du cœur.
Ah ouais. Bah oui, ça peut pas venir d'ailleurs.
Ça non, bah ça...
c'est comme un cri, c'est un chant. Non, pas de Sardou non plus ce soir. Donc Scrubs.
Si, du Sardou.
Scrubs, pourquoi on en parle? C'est parce que il y a 15 ans, exactement, on est en retard, mais on est toujours en octobre, donc ça va. Il y a donc le 2 octobre 2001 sur NBC était diffusé le pilote de Scrubs. C'est une comédie format classique 22 minutes créée par Bill Lawrence qui, juste avant, avait co-créé Spin City. Hein, désolé du peu, hein, quand même, c'est pas rien du tout. Et qui a quand même été pas mal diffusé en France, hein, sur plusieurs chaînes. TPS, Cinestar, Paris Première, M6, France O dernièrement, en Suisse et en Belgique aussi. Et ça nous raconte quoi? Ça nous raconte la vie d'un hôpital, le Sacré-Cœur, qui se situe donc à Los Angeles. Un hôpital d'ailleurs que, quand on le voit dans le pilote et par après, n'est pas plus le même décor, mais ce sont des hôpitaux qui ont existé, qui ont été détruits depuis, malheureusement. Donc ça raconte ça avec JD, on a donc joué par Zach Braff, on a Elliot, on a Turk, on a Dr. Cox, on a plein de personnages très très hauts en couleur. C'est une série qui fait 8 saisons, si vous me dites qu'elle en fait 9, je vous mets une balle dans la tête à la main.
On aurait voulu.
Voilà, je rectifie. Elle fait bien 9 saisons en fait, sachant que la 9e saison s'appelle Scrubs Med School. Mais désolé, je vais devoir me prendre une balle de Monsieur Série parce que je viens aujourd'hui de finir cette fameuse 9e saison que j'ai évité jusqu'à présent. Donc.
Mais comment t'as fait? Elle n'existe pas.
Mais je l'ai inventé en fait. Je l'ai fantasmé comme JD en fait. Non,
voilà, c'est ça. C'est,
mais
c'est,
tout c'était, ça était c'était vraiment creepy et c'était pas comique.
Non, donc toute la saison était un rêve.
C'est ça.
On est dans Dallas. Okay.
C'est Dallas. Ouais.
Voilà. Donc en gros,
c'est la classe à Dallas.
On en reparlera un peu plus tard, mais il y a eu des petits problèmes entre NBC et ABC, le studio qui s'occupait avec Buena Vista, qui s'occupait de la production. Et surtout,
J'adore ta tempérance.
Ah ben j'essaie, je suis quelqu'un de très tempéré comme la bière. Et donc, tout aussi pétillant et mousseux. C'est n'importe quoi. Je ne sais même plus ce que je racontais.
NBC et ABC se sont fightés à mort.
Voilà, mais c'est surtout parce que il y a eu des fights parce que même si on l'aime beaucoup, il faut dire ce qui est, c'est qu'à partir de la 4e saison, les audiences c'était catastrophique. Je vous en parlerai un peu plus tard, j'ai des chiffres, ça fait mal. Bon, la saison 9 fait encore plus mal, donc c'est bien. Donc voilà, en gros, c'est ça, c'est une série qu'il faut aussi noter, c'est une série les plus proches de la réalité niveau médical. Hein, on pourrait penser une comédie comme ça, on fait n'importe quoi, on raconte n'importe quoi. Eh bien non, justement, c'est une série qui a eu beaucoup justement d'articles là-dessus qui reconnaissaient que c'était une des séries les plus proches, hein, à côté des Urgences et autres, hein, surtout pas Grey's Anatomy.
Quoi, Grey's Anatomy, c'est pas la vérité?
Oh mon Dieu!
Mais non, mais c'est pas possible!
Donc voilà, c'est quand même une série qui est très très proche, ce qui est quand même très fort, et surtout, pourquoi c'est très proche? Simplement parce que, comme toutes les autres, il y a des assistants, enfin des intervenants au niveau scénario qui travaillent là-dedans, mais c'est aussi parce que Scrubs à la base, c'est une blague. C'est une blague pendant un dîner très très arrosé avec Bill Lawrence et des amis qui sont justement docteurs. Voilà, donc comme quoi tout peut s'expliquer là-dedans. Sinon, je pense que je n'ai pas grand chose d'autre à ajouter là-dessus, si ce n'est que JD a au tout début, il a souvent sa petite voix intérieure et il raconte de façon en voix off tout ce qui se passe. C'est une série qui est aussi drôle qu'elle peut être touchante. Hein, elle parle autant de justement d'amour, de mort, de maladie que de sujets aussi débiles que l'achat de scooters. Voilà, et de plein de trucs assez bizarres qui tiennent du cartoon, en fait, hein, faut bien avouer. Donc voilà, ça c'est pour dégrossir le tout. Ne nous frappez pas, on n'a pas pour but d'être exhaustif. We are not Superman, pour rester justement comme je disais avant de lancer l'enregistrement. Donc si on oublie des choses, si on dit des conneries, c'est prévu. C'est que ça doit être prévu. Par contre, maintenant, ce qui m'intéresse, moi, c'est par rapport à, ben voilà, justement, Pauline. Toi, Scrubs, tu l'as découverte comment ?
Alors, moi, Scrubs, je l'ai découvert par un ami, mais alors j'étais au lycée, donc ça fait maintenant 10 ans. Mm-hmm. Et c'est la première série que je n'ai pas subie. C'est-à-dire que je n'ai pas regardé à la télé avec les épisodes un peu dans le désordre. C'est la première que j'ai regardée avec les épisodes les uns à la suite des autres. Et c'est, pour le coup, la série qui m'a fait aimer les séries, en fait.
Mm. C'est un peu comme la série qu'on a tous, la petite série qui nous donne la maladie, justement. Et c'est bien d'avoir ça avec une série sur des médecins.
C'est ça, moi j'ai... Voilà, c'est avec... Il y a quand même des thèmes qui sont universels et qui permettent, je trouve, de t'accrocher tout de suite avec les personnages qui sont quand même très travaillés, tout en restant quand même assez drôle.
Et tu l'as découverte donc en français ?
Je l'ai découverte en français.
Oui.
Après, je l'ai regardé en anglais et je préfère la version française. Honte à moi.
je pense que c'est le syndrome des séries comme Friends, etc. où on est tellement habitué d'avoir vu la série en français qu'on a... Pas qu'on déteste en anglais, mais on a un petit attachement.
Il y a un côté attachement, quoi. Voilà, c'est ça.
Et puis aussi, il faut rappeler un truc, c'est que donc la série en 2001, on l'a pas forcément découverte en 2001, je pense pas. Parce que Internet n'était pas non plus aussi facile d'accès et les épisodes encore moins. Donc oui, on risque de découvrir ça plutôt à la télé. Donc bah, quoi qu'il en soit, même si sur M6 c'est en version multilingue, attention, il faut le noter. Mais voilà, c'est quelque chose de qu'on ne peut pas découvrir forcément facilement en anglais, en tout cas avec des séries entre guillemets aussi vieilles. T'allais dire quelque chose, Florian, parce que je t'ai entendu dire un E.
Non, pas du tout, c'était pas moi le...
Ah, c'était donc Guillaume Wyatt.
Ouais.
Ah, ça ressemblait à un E de Florian, quoi.
Non, c'est parce que tu parlais de Friends en français, moi, je suis pas d'accord, hein. C'est de la grosse merde en français.
Ah non, je te laisse pas dire
ça. Est-ce que Friends, tu l'as découvert directement en VO ou pas ?
Non, j'ai fait les deux premières en français, après on m'a dit passe en anglais, et effectivement quand je suis passé en anglais, et eh ben voilà.
La France, non, mais après je suis d'accord que forcément la
en
VO...
En plus, ils changent les doubleurs, quoi.
C'est vrai.
Et non, ça par contre, c'était vraiment chiant, mais moi, pour avoir vu tout en français et en anglais, c'est vrai que j'ai un attachement particulier pour la VF, parce que c'est comme ça que je l'ai découverte, quoi. Mais après, j'avoue qu'il y a des épisodes, il faut absolument les voir en VO, oui. Typiquement l'épisode où Joey parle français, parce que français, c'est nul.
Joey en français, il parle en espagnol, donc...
Oui, et puis même, je trouve l'épisode moins drôle, quoi.
Même alors exemple que...
Pardon ?
Il y a le même exemple pour Scrubs, à un moment, Turk qui parle français pendant une opération,
oui.
Il parle avec JD, et en français, ça donne un truc très chelou. Hein.
En français, il parle français, mais avec un accent
espagnol,
italien, ouais. Espagnol, j'ai une tour Eiffel dans mon pantalon.
Ouais, voilà.
Voilà, c'est, y a des choses qui passent pas, et c'est pas facile forcément, mais... Quand on le découvre, on a toujours un petit attachement. Je suis sûr que, ben voilà, par exemple, Dawson, hein, niveau année, on est plus ou moins dans les mêmes eaux. Je pense que voilà, si on a découvert Dawson, c'était sans doute en français, et le voir en VO peut aussi faire bizarre.
Mais ouais, mais c'est pas pareil, parce que Scrubs, oui, c'est une comédie, et les comédies, c'est hyper dur à traduire, ne serait-ce que déjà, enfin, pas que Scrubs, mais c'est beaucoup des blagues hyper culturelles américaines, et en français, tu c'est très difficile à adapter, parce qu'on était aussi à une époque où les traducteurs essayaient de faire des blagues un peu à la française, parce que forcément, des fois, t'as des références que tu te dis que le public français lambda va pas comprendre, et en plus, c'est bourré de jeux de mots que tu peux pas traduire, quoi.
Et surtout, il y avait quand même, niveau doublage, c'était notre époque, niveau financier, etc. Ils se permettaient quand même plus de liberté, de petites blagues entre eux, de jeux. Hein. Friends était un bel exemple aussi pour ça, et il y en a plein de séries où, en gros, il y a des blagues qui sont ajoutées qui n'existent pas du tout en anglais. Hein. Le copain de moi n'existe pas en anglais dans Friends, par exemple.
Oh.
Mais non, ça n'existe pas. Donc voilà, ça c'est donc tu as découvert donc au lycée en français et ça t'a donné donc le virus de la sériphilie et pas Absolument. La syphilis.
Non. ça Pour c'est mieux après. C'est...
Ah bon non, c'est... Ah ben pauvre de toi.
Regarde ça.
Et donc toi donc Guillaume Wyatt, voilà. Il est écrit Guillaume, il faut que je vais prendre un feutre et le mettre sur mon écran, Wyatt. Voilà. Donc toi, Wyatt, tu l'as découverte comment ?
Alors, ben, moi, c'est pareil, c'est un camarade de classe qui me l'a fait découvrir. J'avais, je sais plus, 14-15 ans, j'étais au collège. Et du coup, ben, j'ai tellement kiffé, quoi, je me suis fait la saison 1 en un week-end, quoi. J'ai binge-watching avant l'heure.
Oui, c'est facile, un binge-watching de comédie, c'est assez simple.
Ouais. Ouais. Et du coup, tout ça en un week-end. Ouais. Mais par contre, je sais plus en quelle langue j'ai découvert. À mon avis, j'ai dû la regarder en français au collège. Mais je suis vite passé à l'anglais. Quoi.
D'accord. Et donc, Florian, parce que, désolé, hein, Elodie et Cécile, mais comment vous l'avez découverte ? Je pense que vous allez me dire, je sais plus.
Ah si, moi aussi, je sais.
Ah, bon, je viendrai alors juste après vous.
Et donc, Florian ? Non, on peut faire elle d'abord, il n'y a pas de
oui
soucis.
Alors, bon, Elodie.
En fait, Scrub, ça fait partie des séries que, tu vois, des gros classiques que j'ai de côté qu'il faut que je rattrape. Et que déjà, quand je me dis, il y a déjà 8 saisons à rattraper, ça fait peur. Et par contre, comme c'est toujours rediffusé, il y a quelques années, j'étais tombée par hasard dessus à la télé, donc forcément en français. Et c'est le genre de série, tu tombes dessus, tu fais, hey, mais c'est sympa en fait. Et du coup, j'ai regardé quelques épisodes comme ça, ça m'a fait le même effet avec Psych. Et mais c'est comme ça. Bah ouais, voilà.
Il faut
Donc en fait, j'ai le syndrome du je regarde un épisode par-ci par-là, mais j'ai jamais eu le temps de vraiment me binger les saisons.
Et
vraiment
suivre l'évolution des personnages, etc.
Ouais, voilà. Donc
toi, ananas, et regarde Psych.
je veux faire ça.
T'as jamais regardé complètement Scrubs ? Coupe-toi, ananas, et. oui, bon. D'accord. Et donc, Cécile, toi, tu l'avais regardé. Tout d'un coup, moi, il y a 5 ans, mais tu t'en souviens plus.
Non, c'est que oui, j'ai tout vu. un ami me l'a passé il y a 5 ans quand j'étais en école et je l'ai vu. Sur son disque dur, on était évolué à l'époque déjà. Et oui, j'ai tout vu. J'ai vu les 8 saisons plus la saison qui n'existe pas en 3 mois de temps. Donc oui, vu que je l'ai vu rapidement et que j'ai vu quelques séries, 2-3 depuis. C'est vrai que voilà, c'est vu que je l'ai vu qu'une fois en plus. Je sais que les comédies, je les retiens bien quand je les vois plusieurs fois. Ouais. Friends, je connais tout par cœur parce que j'ai vu au moins 10 fois chaque épisode. Là, c'est vrai que Scrubs, vu que j'ai tout vu qu'une fois, mes souvenirs sont lointains, mais j'ai tout vu.
C'est vrai que par rapport à moi qui me fais l'intégrale de Scrubs une fois par an, c'est sûr que.
Pareil.
Moi, ça c'est Friends.
Mais Friends aussi, hein, t'inquiète pas, hein, mais. Mais là, je suis obligé de le faire à deux, Friends. J'ai pas le choix. Donc, ça prend plus de temps. Alors, Scrubs, en un mois, j'ai fait les 8 saisons sans problème, quoi. Et encore en un mois, en traînant un peu. Il y a eu un moment, j'avais fait quasiment 2 semaines.
Respect.
Voilà, donc Florian, j'allais dire Flo.
Flo. On est entre nous. Voilà.
Wesh Flo.
Wesh Flo.
Alors, toi
Moi, c'était c'est à peu près la même chose que Wyatt. J'étais en début de lycée et je venais d'avoir TPS en fait, ce qui était un gros événement dans mon petit village béarnais natal. Et le truc, c'est que TPS à l'époque le dimanche rediffusait Scrubs en VOST. Donc j'ai eu l'occasion de découvrir les deux premières saisons en 2002-2003 en VOST. Et disons que voilà, j'étais à l'époque, je voulais déjà découvrir les séries en VO et pas en VF. Là aussi, qui plus est, là où j'étais, il n'y avait pas Internet n'était pas évolué. Et cette série, en termes de comédie, en termes de sitcom, parce que moi j'ai pas suivi Spin City quand c'était diffusé sur Canal, moi c'était South Park et pas Spin City. Et donc je me suis pris une claque monumentale. Et contrairement à d'autres séries cultes de l'époque, voilà, les 24 heures chrono, les Gilmore Girls, les Alias et Scrubs, qui étaient voilà, les deux rendez-vous obligés voilà, de ma nouvelle obsession sur le câble, puisque bon, à l'époque c'était le satellite, et j'avais enfin accès à ces séries en VOST, et je ne me sentais plus. Et les deux premières saisons de Scrubs ont été... enfin voilà, ça m'a foutu une claque monumentale en termes de rythme. J'étais absolument mort de rire à chaque épisode et j'avais jamais vu une comédie qui cumulait autant de qualité. Et depuis, en fait, donc lorsque voilà, j'ai eu l'occasion voilà de suivre les 6 saisons en VOST, enfin en VOST après diffusion NBC juste après. Et j'avais arrêté, etc. J'avais stocké les 3 dernières saisons, tout simplement parce que je m'étais lassé en saison 6, en fait. J'avais lâché la série. Et là, justement, l'occasion de faire ce podcast m'a permis voilà, de me faire violence et de rattraper les 3 dernières saisons de la série. Mais c'est vrai que Scrubs fait partie des comédies qui me tiennent à cœur parce que sentimentalement, ouais, on va dire que j'ai jamais été fan des comédies de type Friends, etc. J'ai jamais été fan de comédies, on va dire, classiques. Et Scrubs, c'était tout, enfin, de mon point de vue, c'était tout sauf classique. Et c'est pour ça que ça m'a autant marqué, en fait, et que voilà, moi, je suivais ça avec un gros plaisir, au moins pendant les 4 premières saisons, quoi.
D'accord. Voilà, ça c'est un bon début. Moi, je me souviens que la façon dont j'ai découvert, c'était plusieurs fois, mais notamment avec un pote sur Skype déjà à l'époque, qui lui, en fait, le bougre, m'en parlait souvent, puis j'ai pas encore le temps de regarder, j'avais plein de trucs à faire, etc. J'étais pas autant dans les séries que maintenant. Et il a fini par me convaincre, et à cause de photos qui m'expliquait la photo qu'il avait été prendre justement sur place de l'hôpital qui servait de décor, en fait, parce que l'enfoiré, ouais, il avait été le visiter. Maintenant on peut plus.
Ça fait chier. Oui, parce que ouais, ça a été détruit, c'est ça.
Les deux ont été détruits.
Les deux? Ah ouais. Ouais.
Ouais, les deux ont été détruits. Le premier assez vite parce qu'il a été détruit après le pilote.
Ah oui, d'accord, ok, non, je vois ce que tu veux dire. Non, je pensais l'hôpital de la saison qui n'existe pas, ce qui me...
Non, celui-là, non, il y a...
Je crois que ça, c'est des studios normands.
Oui, ça, c'est des studios normands. En fait, il y a deux hôpitaux qui se ressemblent très très fort, et les premières saisons étaient détruites juste après la première, le pilote, et puis après, il y en a un deuxième qui a été trouvé quasiment dans le même endroit, qui lui a été... après les 8 saisons, un peu après, ça a été détruit. Et donc c'est à cause de ou grâce plutôt, grâce à lui, hein, donc le cher Vincent qui m'a fait découvrir ça, et bah, j'ai accroché direct parce que il y avait un rythme, il y avait des blagues dans tous les sens, il y avait le côté cartoon qui lui va si bien, surtout en première saison, il y avait beaucoup plus ça que dans les saisons après. Ça c'est un peu étalé, ça, le côté cartoon. Et puis j'ai découvert souvent des personnages hauts en couleur, et surtout deux personnages, hein, Turk et JD, donc les deux copains, hein, le plus beau couple de la télé.
La bromance.
Ah ouais, ouais. C'est plus qu'une bromance, hein.
C'est
Guy Love, hein, donc faut pas oublier.
Oui, c'est Guy Love.
Between Two Guys.
Ouais.
Voilà, arrêtez, sinon je vais chanter.
Non. Oui, je vais arrêter, sinon tu vas chanter. Donc voilà, j'ai découvert, mais alors d'abord en français. En français, et puis oui, par la suite en VOST, mais c'est vrai que j'ai gardé un attachement donc pour la VF, parce que je la trouve. Je la trouve sympathique, outre le fait que les blagues sont pas bien traduites ou pas toutes traduites, ils ont réussi à donner des voix et des corps aux personnages malgré les différences de voix qu'il peut y avoir entre, par exemple, JD en VF et en VO. La VF est plus aiguë que la VO, par exemple. Et comme je disais avant d'enregistrer, le fait que voilà, je connaisse la personne qui fait la voix de JD n'aide pas à dire « Ah non, j'aime pas ce qu'il fait », alors que au contraire, hein, j'aime beaucoup, surtout qu'en plus de ça, après, il a fait la voix de Fry dans Futurama.
Dans Futurama, oui.
Bon, ouais, Alexis Thomasian, voilà, a quand même une voix assez marquante, et puis il donne, en fait, au personnage de JD un peu plus de folie encore que dans la version originale, je trouve. Un côté un peu plus cartoon. Je sais pas, hein, c'est juste un avis, on va pas me frapper.
Plus enfantin.
Ouais, voilà, alors que justement, c'est ça, le personnage de JD, c'est un gosse, en fait. C'est resté un gosse, fan de licorne, qui...
Chien empaillé.
Oui, mais les gosses n'ont pas forcément de chien empaillé.
Ouais, c'est pas.
Voilà, mais qui n'ose pas, qui se pose plein de choses, qui pose plein de questions, et qui va évoluer pendant 8 saisons, jusqu'à devenir un adulte respectable et respecté. Oui, j'ai un écho. Respectable et respecté, voilà, et hop, le point Guy Love est atteint, ça y est. C'est le point G. J'ai des notifications sur mon téléphone, je vois ce que tu dis sur Twitter, tu te rends compte, Cécile?
Bah oui, je sais, mais quand même, je live tweet le podcast de l'intérieur. Je tease les gens.
Tu live tweet quelque chose qui va être diffusé demain, c'est bien.
C'est ça, c'est beau.
C'est magnifique. Donc voilà, niveau découverte, c'est globalement, on va dire, tout le monde un peu en français. On est resté plus ou moins attaché à la version française, mais la VOST FR, bien entendu, est toujours préférable. Hein. De toute façon, la VO, quelle que soit la provenance d'une série. Alors, justement, par rapport à tout ça, donc c'est la façon dont on l'a découverte. Je pense que pour les voilà, Wyatt, Pauline, Cécile et peut-être Florian, c'est une série qui est en fait une indispensable. C'est quelque chose, c'est limite un culte, vu que, en tout cas pour moi, c'est devenu un objet de culte, jusqu'à peut-être se saouler des personnes, mais je disais, c'est une fois par an. Je ne peux pas ne pas faire un intégral de Scrubs une fois par an. C'est impossible.
Il le dit pas, mais il a érigé un hôtel dans son salon en référence à Scrubs. Hein.
Non, mais...
Est-ce qu'il y a un chien empaillé, en fait, dedans, en fait? C'est ce que je veux savoir.
Non, mais le jour où j'ai ma maison à moi, il y aura tout ça. Avec un bandana.
Ça va être sympa, la déco.
Un chien empaillé avec un bandana.
À roulette.
Oui, bien sûr, c'est plus facile à déplacer. Je sais pas, donc justement, voilà, Pauline, toi, c'en est à ce point-là ou pas du tout?
Pour moi, ça reste ma série préférée en termes de... pas de qualité... mais en termes de voilà d'attachement, ça reste pour moi
c'est un doudou,
si on veut, voilà, exactement, c'est la série qu'on regarde voilà tous les ans, c'est typiquement qui fait du bien, qui fait pleurer, qui redonne un peu espoir en l'humanité, en fait. C'est la série qu'on regarde quand on est déprimé.
Est-ce que c'est la série que tu regardes quand tu es malade? Parce que moi, je sais que Friends, c'est ça, c'est que je la regarde quand je suis malade, parce que si je m'endors devant, je m'en fiche de quand est-ce que je me réveille, je sais où je suis.
Alors typiquement, non, je m'endors quand je suis malade, c'est plutôt Gilmore Girls. Ah. C'est aussi bien réconfortant. Mais non, Scrubs, c'est plus la série de déprime.
D'accord.
Voilà.
D'accord. C'est vrai que le sujet de la déprime est quand même...
vachement abordé.
Est vachement abordé dans la mort tout court, en fait. Hein. C'est quelque chose qui est très, très, très abordé dans Scrubs. Toi, Guillaume, Wyatt, j'y arriverai jamais.
C'est pas grave. Ouais, ben moi, c'est tout pareil, quoi. T'as dit exactement ce que je voulais dire.
Mais
Scrubs, moi, c'est vraiment ma série qui est au-dessus, quoi. Tu vois, quand on me demande genre des conseils ou qu'on me dit c'est quoi tes séries préférées, je la mets hors classement, quoi. Tellement pour moi, elle est au-dessus. Je la regarde tout le temps, quoi. Quand je suis malade, quand je suis bien, quand je suis pas bien. Une heure, deux fois par an, comme toi.
Ça dépend, parce que bon, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de séries, donc maintenant, j'essaie de toujours lui trouver sa place avec Friends, hein, histoire de. Ça reste là. Bon, après, c'est. C'est des choses qu'on peut regarder, voilà, 5-6 épisodes d'affilée, ça pose absolument aucun problème. Qu'on regarde de façon plus ou moins attentive, hein, parce que voilà, c'est série qu'on connaît quand même par cœur, on connaît les gags par cœur, on sait ce qui va se passer. Je regarde tellement souvent, justement, je viens de me rappeler, c'est que ici je regardais il n'y a pas si longtemps, donc j'avais ma mère qui était chez moi à ce moment-là où je regardais. Elle a vu quelques épisodes. Et ben, j'ai appris que depuis, en fait, elle le regarde quand il passe à la télé, justement, sur France O ou un truc comme ça. Un nouveau qui passe encore. Donc elle est devenue accro et elle a ramené mon père avec. Donc comme quoi, en fait, il suffit juste de la regarder pour que ça marche ou que ça ne marche pas. Ici, aujourd'hui, on n'a personne sur qui ça ne marche absolument pas.
Ouais, non,
c'est pas forcément que ça ne marche pas, mais c'est une question de priorité. Mais voilà, c'est une série, comme on a beaucoup, je pense qu'on risque d'avoir plein de séries comme ça dont on va discuter dans le podcast, des séries doudou, hein, Psych en fait partie aussi. Donc ça, c'est la façon dont on le voit. Je pense que Florian, toi, ça va être pareil. Ou...
Non, moi, pour moi, enfin,
un peu moins.
Moi,
un
j'ai
peu
pas...
moins, toi, t'as arrêté pendant quand même quelques années.
Ouais, non, moi, j'ai arrêté. Enfin, j'ai gardé les trois dernières saisons en stock pendant des années. Mais le truc, c'est que contrairement à Wyatt, à Cécile, etc., je n'ai pas pour règle de revoir les séries. Et c'est un tout petit peu pareil avec des films. Donc, c'est pas des choses. Maintenant que j'y pense, et bon, maintenant que là j'ai vu la fin et que je me remettais en mémoire là, tout ce qui s'était passé dans Scrubs, c'est clair que je serais plus enclin à revoir des épisodes des deux et trois premières saisons, mm-hmm. avec toujours le même engouement. D'ailleurs, même pour préparer ce podcast, j'avais choisi de voir les épisodes de la saison 3, de la fin de saison 3 que j'avais sauté. Pour une raison très très, très très simple, on va dire, que vous connaissez.
C'était le meilleur.
Pardon ?
Le meilleur, quoi.
Mais pas le meilleur. Enfin, moi, c'était un tout petit peu le truc qui m'avait un peu brisé le cœur. Donc voilà. C'était ma relation particulière avec la série, avec les shippers. Mm-hmm. Ouais. Et du coup, moi, c'est clair que je défendrais toujours la série. Enfin, pour moi, je considère ça un c'est probablement dans le top 3, top 2 des meilleures comédies, toutes nationalités confondues des années 2000. Mm-hmm. Déjà, un. Deux, je pense aussi que c'est la meilleure série de Bill Lawrence.
Oui, de toute
façon. Ouais, je pense que j'ai vu Undateable. C'est même. Je pense que c'est aussi à cause de Scrubs que j'ai pu voir le début de Cougar Town, que j'ai pu voir Undateable, parce que Bill Lawrence s'est imposé comme un gage et un showrunner de qualité. Mais que je pense pas non plus qu'il va réussir dans sa carrière à refaire aussi bien que Scrubs.
Ça, c'est son, c'est vraiment son coup d'éclat, son chef-d'œuvre.
Oui, c'est son chef-d'œuvre.
Ce qui suit après, Undateable est très sympathique. J'aime vraiment beaucoup, surtout la saison
tout en live.
Ça, c'est juste une idée, mais juste géniale. Mais il n'est pas tout seul dessus, hein, c'est pas lui tout seul. Cougar Town, on sent qu'en fait il savait pas trop quoi faire en fait.
Au début, oui, clairement.
Mais il savait pas trop quoi faire d'ailleurs, à tel point qu'il a avoué lui-même que même le nom de la série finalement n'était pas bon. Ça aurait été plus Friends with Drinks, un truc comme ça, je pense.
Ouais, c'était ça, ouais. Friends with Wine.
Ah, c'est cul de sac.
Voilà, mais ce sont des séries qui peuvent être drôles, qui sont sympathiques, qui ont des personnages qui sont forts, mais qui n'arrivent jamais, mais absolument jamais, à la cheville de Scrubs. Et puis, bon, voilà, Spin City, il est juste co-créateur. Enfin, juste. Il est co-créateur aussi, c'est un peu comme sur Undateable, il est plus producteur que créateur. Mais c'est vrai que je pense qu'avant qu'il n'arrive à égaler ce qu'il a réussi à faire avec Scrubs, non, je pense qu'il est passé à autre chose, en fait. Clairement, comme tous les acteurs qui étaient dedans, d'ailleurs.
Mais il est sur Rush Hour, maintenant.
Voilà.
Pour donner niveau.
Je ne voulais absolument pas en parler de celui-là. Donc,
Non, mais le mec, en fait, c'est Patrick Hernandez. Il a fait un tube et après, plus rien, quoi.
Non, mais c'est vrai, parce que c'est vrai que j'ai remarqué ça il y a peu de temps. Il y a parfois des showrunners, des réalisateurs, tout ça, on dit « Ah ouais, mais il a fait ça, c'est génial !» Et puis tu réfléchis, est-ce qu'il y a d'autres trucs qu'il a fait que je pourrais conseiller les yeux fermés ? Et je dis « Ben non. Undateable, j'ai envie de le conseiller, surtout la saison live, mais malgré tout, je sais très bien que ça risque de ne pas plaire du tout. Mais vraiment du tout, parce que il y a des moments où c'est creux, où c'est un peu plus lent, moins peaufiné, en fait, voilà, parce que...
Plus facile, surtout, quoi. Enfin, il y avait certains épisodes qui étaient... qui s'écrivaient d'eux-mêmes, quoi, enfin...
C'est ça, et puis
ouais,
surtout...
Trop facile.
Je pense qu'il avait aussi un truc, c'est qu'il avait tout un casting, tu peux pas trouver un casting... Pardon ?
Il y avait beaucoup de gens de Scrubs qui sont passés dans Undateable.
Oui, voilà, mais ils sont passés dans Cougar Town aussi, etc. Mais
dans Ground Floor aussi, dans toutes les séries de Bill Lawrence, il y a des gens de Scrubs qui repassent.
C'est ça, mais je veux dire que dans Scrubs, il avait justement des acteurs qui font que c'est toute une alchimie qui va être compliquée à refaire. Et je suis sûr certain que même s'il reprenait les mêmes acteurs, ça ne fonctionnerait pas forcément. Parce qu'on aura encore l'image de c'est Scrubs, etc. Donc peut-être qu'il faudrait qu'il fasse autre chose que de la comédie.
Ouais.
Pour pouvoir sortir de ça et sortir de cette image de on attend un nouveau Scrubs. Entre guillemets, hein, je pense qu'on attend autre chose quand même.
Il n'y en aura pas, je pense, de nouveaux Scrubs. Ça, c'est trop réussi, quoi, comme t'as dit.
Même c'est trop unique. Enfin, pour moi, unique, en fait. C'est, quand on y pense, ça cumule tout, en fait. Ça cumule tout, ça, comme le casting, le ton, les vannes, les épisodes, les leçons de vie qui sont bien écrites, le rythme effréné où tu as le temps d'être touché entre trois vannes au marteau-piqueur. C'est une symphonie
qui est sincère et généreuse, en fait. C'est surtout ça qui fait qu'elle fonctionne, c'est que tu as l'impression vraiment d'être au milieu de personnes qui se côtoient réellement, d'avoir un peu comme Friends, en fait, une bande d'amis, un truc qui ne sonne pas faux, un truc qui sonne vrai. Et dans les larmes, en fait. Pardon ?
Ouais. En même temps, c'est un peu le cas, puisque Donald Faison et Zach Braff sont meilleurs amis dans la vraie vie, et il me semble que Zach Braff est sorti avec celle qui jouait Elliot.
Et avec Sarah Chalk. Mais est-ce que c'était déjà le cas au moment où ils ont commencé? Je ne pense pas.
Non,
ils se sont rencontrés.
Ah, tous en même temps? Donc tu disais, Pauline?
Et oui, il me semble qu'ils sont sortis ensemble à partir de la saison 2, je crois. 1 ou 2.
Voilà, donc c'était déjà le cas. Enfin, ça se sentait déjà dès la saison 1, mais ça n'a fait que s'accentuer jusqu'à la saison 8 qui finit justement avec une... Bon, ouais. Ça fait des années maintenant, on peut entre guillemets spoiler, mais ça a une vraie fin. C'est la fin que Bill Lawrence voulait, c'est une fin qui est émouvante, qui vraiment résume le passage de l'enfant et à l'âge adulte, en fait. Voilà, c'est vraiment le passage de ça à l'âge adulte. C'est simple, mais c'est juste beau. Et puis alors avec la musique justement de... Et là, je compte plus sur son nom. Peter Gabriel, voilà, de Book of Love. C'est une scène qui est parfaite. Et l'après générique où on voit justement les rushs, pas le bêtisier, mais avec toutes les personnes qui finissent. C'était la dernière scène pour telle personne, C'est une fin. C'est une fin en soi. C'est la fin. Le reste, c'est vraiment une espèce de spin-off qu'ils ont voulu faire. On y reviendra un peu plus tard encore. Mais quand on parle de casting, il y a un personnage. Bon, moi j'aime beaucoup Bob Kelso parce que c'est le méchant, pas méchant, mais il y en a un qui est très 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 important. Mais c'est le concierge.
Ah oui,
Alors le concierge, pourquoi il est très important? Parce que au départ, si vous vous souvenez bien, et vous remarquez, surtout dans la première saison, il n'y a que JD qui interagit avec, parce qu'il était censé n'être qu'une image, qu'une pensée, enfin un personnage inventé par JD. Et donc il ne devait même pas être plus que ça, c'est parce qu'il était très très bon qu'il est resté jusqu'au bout. Et c'est vrai que Scrubs sans le concierge, et JD sans son némésis, ça ne peut pas exister. Donc c'est Neil Flynn. Neil Flynn que l'on peut voir maintenant dans The Middle.
Dans The Middle,
hein. Le grand gars qui sourit pas, etc. Enfin, il fait toujours le même rôle.
Des fois il sourit, mais ouais, ça fait peur.
Mais ça fait peur. Donc voilà, ça c'est un personnage qui est très important parce que ils sont tous très importants à leur niveau, mais lui, c'est vraiment un espèce de point de pivot de tout le monde, en fait. C'est comme ça que moi je le ressens, je sais pas si...
C'est celui avec qui ça commence et avec qui ça termine. Cette histoire de pièces qui se coincent dans la porte, quoi.
Ah bon. Déjà dans la première saison. Mm. Voilà, avec ce gars qui a presque la même coiffure, les cheveux pas coiffés que JD, qui aussi a un problème avec la porte. Hein. C'est le gag, hein. C'est le premier jour et le dernier jour. Hein. Donc c'est vraiment ça, c'est un personnage mais très très important. Il y en a d'autres, hein, comme ça qui le sont. Il y a Ted.
Tellement.
Ted qui est donc le souffre-douleur plutôt du docteur Robert Kelso, qui est donc le directeur jusqu'à un certain moment du Sacré-Cœur, qui est en fait un avocat qui, lui, il a juste peur qu'en fait l'hôpital soit poursuivi. C'est un mec qui ne s'assume pas du tout, mais qui, comme tout le monde, en fait, tous les personnages finissent par évoluer, finissent par devenir un peu plus adultes et j'en connais pas un seul à part le Todd.
Oui.
À part le Todd, il n'y en a pas un seul qui n'a pas évolué de l'adolescent à l'adulte en fait. Je sais pas si vous pensez la même chose que moi, parce que j'ai l'impression de parler tout seul.
Non, non.
Non.
Parce que t'as bien résumé.
Tu résumes bien les choses.
Incerné le propos, quoi. Moi, je rajouterais juste que le Dr Cox aussi, c'est vrai, enfin, pour moi, c'est mon avis, et c'est vraiment l'un des personnages les mieux, quoi. Enfin, les mieux.
Bravo.
C'est le plus mieux, je
kiffe. C'est vraiment super.
C'est super. C'est, ouais, c'est, tu disais que le concierge, c'était un personnage pivot. Ouais, bon, moi, je mettrais dans ce rôle-là le Dr Cox, quoi.
Pour le côté paternel.
Ah, voilà, c'est exactement ça, le côté paternel, c'est le mec qui va te ramener tout le temps sur Terre, qui s'en fout un peu de tout, mais en même temps qui s'en fout pas, quoi.
Oui, c'est ça, il a l'air de toujours s'en foutre, mais malgré tout, il le montre à sa façon, hein, sa façon, voilà, avec des voilà, à toutes ses phrases, voilà, et en mettant ses mains derrière sa tête, quand il s'énerve. Donc c'est vrai que... Il n'y a pas un personnage à jeter, parce que même si voilà, le Todd peut m'énerver par moments, ou même la Verne ne sert pas forcément à grand-chose, entre guillemets, hein, attention.
Bah, c'est les questions de religion et homosexualité, quoi. C'est la partie, cette voilà. partie de ça.
C'est une partie qui est importante, parce que c'est plein de sujets en personnages. Donc c'est ça aussi qu'apporte Scrubs. On essaie de vous convaincre d'aller re-regarder la série, hein, Elodie et Cécile. Je sais pas si on y arrive jusque-là.
Ah, monsieur, vous donnez envie, hein.
Non, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Et puis, autre chose qui a marqué aussi Scrubs, niveau casting, ce sont les invités.
Ah oui, bah alors ça...
Ah oui, ça, il y a une liste, hein.
La fameuse Elizabeth Banks, je lui en veux encore, hein.
Oui, bon, après, il y a Heather Locklear.
Et Brendan Fraser, ça, bah ça, je l'oublierai jamais.
Ah non, Fraser, ça, non, on n'en parle pas.
Ça c'est l'épisode.
Si, parlons-en. Moi, je m'en souviens.
L'épisode qui m'émeut à chaque fois.
Ah mais moi, c'est l'épisode qui m'a marqué de Scrubs en fait. Moi, tu me dis Scrubs, c'est l'épisode que je vois dans ma tête tellement il est marquant et fort. L'épisode avec Brendan Fraser.
Parce que là, on parle entre nous qui connaissons, on va spoiler des trucs. Tant pis pour ceux qui n'ont pas vu.
Oui, spoiler alerte là.
Voilà, spoiler alerte. Donc, le personnage joué par Brendan Fraser, qui est donc Ben. C'est le frère de Jordan qui est la femme de
Dr. Cox.
Dr. Cox, hein, la sorcière de Dr. Cox. C'est vraiment son meilleur pote, hein, voilà, qui vont à deux, ils vont tourmenter JD jusqu'à un retour où on l'a pas vu pendant longtemps. On l'a vu pendant un épisode, puis on le revoit revenir et on apprend qu'il a une leucémie. Et justement, bah là, le moment où il revient, bah, c'est le moment où la leucémie est à son terme. Il a passé son temps à voyager à travers le monde, avec des super photos devant des choses où c'est flou. C'est un épisode où, justement, on voit que Cox peut être aussi vulnérable. Et ce sont toutes les étapes de l'acceptation du deuil, hein, parce que comme on disait, hein, la mort est très présente dans la série, mais alors là c'est une des plus marquantes avec
l'autre étape de l'autre épisode qui reprend l'acceptation du deuil avec, je crois que c'est saison 1, je crois, où il y a le psychologue qui vient faire chier JD et Cox là chaque fois pour leur rappeler du deuil.
C'est
une patiente âgée là qui...
C'est ça, il y a les 5 étapes, voilà, c'est tout à fait normal. Il y a ça et plus tard, je pense que c'est en saison 8, il y a un patient avec qui il s'attache. Je sais plus son nom, mais tout ce qu'il demande, le patient, c'est de pouvoir boire une dernière bière avant de mourir. Et eux, ils avaient prévu de passer leur soirée steak.
Oui, c'est vrai. Ouais.
C'est pour ça que je me souviens que c'est la saison 8.
C'est le deuxième épisode de la saison 8.
Voilà, le deuxième épisode de la saison 8 qui commence par un truc, qui finit d'ailleurs par un moment super difficile, donc c'est impossible de ne pas être ému et de verser sa petite larme devant ça, mais c'est récurrent. Donc je pense qu'il n'y a pas une seule saison, il n'y a pas un rapport à la mort et en tout cas à la séparation violente comme ça. Je suis en train de chercher, mais je n'en vois pas. Donc, Brendan Fraser, c'est très dur de le voir, en tout cas d'y penser.
Il y a une autre mort aussi, bon, je veux pas trop spoiler, mais bon, vous serez prévenus, hein, ceux qui écoutent. C'est la mort de Laverne,
oui,
dans la saison.
Qui revient en saison 8 pour devenir la Relaverne.
Laverne en VO.
Voilà. Mais oui, qui justement, c'est encore une mort qui est très difficile, qui est très importante encore une fois pour l'évolution de des personnages dans la série. Il y a le père de JD, on peut pas oublier.
Il y a un autre épisode qui m'a marqué en plus de Brendan Fraser, c'est celui de l'épisode des greffes où le Dr Cox il perd 3 patients. Quoi. Ouais. Alors celui-là.
Ah ouais, non.
Ça c'est très très dur aussi parce que là on le sent désemparé. Et c'est là où justement. C'est là où le côté médical de la série est juste, en fait.
Ils n'ont jamais pris le côté médical à la légère, je suis d'accord avec toi. Ils n'ont jamais pris ça à la légère.
Alors que justement, on peut voir des choses dans Urgence qui sont très bien, dans Grey's Anatomy dans un certain niveau qui peuvent être sympas, ou dans Code Black. Mais c'est trop médical, c'est pas assez humain. Alors que là, ils ont pris le côté médical, ils l'ont fait de façon sérieuse, mais humaine surtout. Et c'est ce qui fait que ça rend si bien, et pourtant c'est une comédie. Alors j'ose même pas imaginer si ça avait été un drame, mais là je pense qu'on peut
aller
de A à Z.
Tous les épisodes. J'aime bien faire le parallèle avec Brooklyn Nine-Nine, qui est pas une série, justement, qui est une série où j'accroche pas parce que c'est une comédie qui se passe dans le commissariat.
Ouais.
Et le truc c'est que le point commun avec Scrubs c'est que j'aime tous les comédiens de Brooklyn Nine-Nine, et oui. C'est ça aussi qui m'a fait apprécier la première et unique saison que j'ai vue. Le truc qui me fait pas accrocher à Brooklyn Nine-Nine, c'est que toute la partie enquête, je pense qu'il pourrait à un certain moment, je sais pas, commencer à prendre des enquêtes au sérieux, ou avoir vraiment des choses fascinantes. Et là, il y avait des cas médicaux, il y avait les patients qui arrivaient dans Scrubs. On en avait quelque chose à faire, et c'était pas juste les fantaisies de JD, c'était pas les coucheries de JD, c'était, il y avait aussi des cas médicaux auxquels on pouvait s'attacher, et c'est une grosse rareté, s'attacher à un cas médical en une vingtaine de minutes, parce que les épisodes des premières saisons, c'est moins de 20 minutes, c'est quelque chose d'assez...
Ouais, c'est 19 minutes, tout ça, c'est vraiment...
C'est remarquable.
C'est soutenu, mais c'est là tout le talent de Bill Lawrence et de ses équipes, quoi. C'est vraiment très rythmé, et c'est bien écrit, bien joué, enfin, c'est tout, quoi.
C'est les mots justes, en fait, c'est les mots justes dans la partie, parce que à chaque fois, il y a une certaine formule, hein. Avec les épisodes de Scrubs qui sont marqués par la voix off de JD,
mm-hmm. Pendant ces 8 saisons. Qui est parfois utilisé à contre-courant avec d'autres voix off pour les autres personnages, justement, histoire de casser un peu tout ça. Ouais.
Mm. Et le truc, c'est que y a une certaine. Voilà, il y avait une certaine. Une fois qu'on avait compris le principe, il y avait une certaine propreté, c'est-à-dire qu'on sait qu'à la fin du. À la fin du premier acte, voilà, il y a, on voit trois situations avoir des points communs qui sont soulignés dans la voix off. On a une espèce de leçon de vie, qu'elle soit pour JD ou qu'elle soit pour les autres ou qu'elle soit pour voilà. Et le truc, c'est que ça n'a jamais été. Justement, je pense que j'avais aussi arrêté parce que ça commençait peut-être à devenir trop la formule sur les saisons 5, 6 et 7. Mmh. Mais les premières saisons, c'était des mots justes, c'était des répliques justes. Et comme tu le dis, comme tout le monde a paraît-il le dire depuis le début du podcast, c'était touchant, en fait. Ça touche avec juste ce qu'il faut, en fait, et juste ce qu'il faut de pathos.
Ouais.
C'est ça la force de cette série, en fait, c'est d'arriver à être toujours triste sans jamais être gnangnante ou dégoulinante, en fait. Il est toujours sur une ligne qui est quand même assez difficile à tenir, et jamais j'ai trouvé que la série tombait dans trop tristesse juste pour la formule, quoi. C'est vraiment toujours juste.
Ni trop potache, ni trop triste, c'est... Il y a un équilibre, malgré qu'il y ait sans doute des épisodes moins bons que d'autres, des saisons qui sont moins fortes que d'autres. Mais pour moi, il y a un équilibre qui est quand même maintenu pendant 8 saisons, ce qui est quand même très très fort. et qui a une cohérence en fait quand tu prends dans sa globalité, et un début et une fin qui embellit tout ça. Après, pour rester et revenir sur les personnages, donc il n'y a pas que des morts. Hein. Bon, après, le personnage du père de JD est mort parce que l'acteur est lui-même mort, hein, donc John Ritter, qui était donc dans Touche pas à mes filles avant aussi.
C'est ça.
Oui.
Il est mort aussi, il est mort en plein tournage des saisons d'ailleurs.
C'est ça, voilà.
Touche pas à mes filles, ouais.
En fait, c'est un personnage qui a joué que des rôles de père, parce que moi je m'en souviens aussi, c'était dans Junior le Terrible, c'était le père dans Junior le Terrible, pour ceux qui se souviennent du film, enfin des films, et là je suis tout seul.
Je vois même pas ce que c'est.
Junior le Terrible, c'est un... Ouais, c'est des trucs quand j'étais vraiment très très petit. Donc voilà, donc John Ritter était là-dedans, mais toujours, pour moi c'est toujours l'image du père, et là encore plus. Après, on a eu du, ben, forcément, Michael J. Fox, hein, petite liaison avec Bill Lawrence. On a Courtney Cox.
Ah oui, effectivement.
Pendant trois épisodes, pendant la saison 8.
En Pascal Sou.
Exactement.
Voilà, qui remplace temporairement le Dr. Kelso. Voilà, en étant une peau de vache pire, en fait.
Excusez-moi de m'étonner, mais je vois David Copperfield, quoi.
Oui, en fait, c'est pendant un flashback de quelques secondes.
D'accord.
En fait, il est dans un bar. Justement, il dit « Ah oui, c'est comme la fois où j'avais vu David Copperfield. » Et puis, il fait une blague genre « Ah oui, c'est magique. Voilà, »
D'accord, donc il est apparu, il a disparu comme un David Copperfield.
En fait, je crois qu'en tout, ça doit durer une minute, quoi.
D'accord.
Ouais, non, les personnages, voilà, Michael J. Fox, il est quand même là pendant deux épisodes. Courtney Cox pendant 3, on a du Ryan Reynolds aussi dedans, Dick Van Dyke.
TV Scott Foley pour ceux qui regardent Undateable.
Voilà. Oui, Scott Foley, oui, qui est là avec qui joue justement le petit
copain.
Il
est là pas mal, hein, il est là pas mal d'épisodes. Hein.
Oui, parce que c'est le petit copain
d'Eliot
qui justement JD déteste. Hein. On a Tara Reid qui est dans beaucoup d'épisodes. Voilà, je regarde une liste comme ça.
J'avoue que Tara Reid, étant donné que j'ai rattrapé, donc, comme je disais, les épisodes de la saison 3, Tara Reid a littéralement daté la série à mes yeux, rien que par son apparition. Donc ouais. c'est le pouvoir de Tara Reid.
Et comment ça s'appelle du coup Molly là.
Pardon ? Molly, oui, c'est donc Heather Graham.
Ether Graham,
qui est le psychiatre, hein, un peu fofolle, qui devient la meilleure pote. Il y a Juliana Margulies, je sais plus comment on dit, qui est l'avocate
sexy,
mais surtout impartiale. On a Matthew Perry dans un épisode.
C'est vrai ça.
Et c'est un épisode d'ailleurs qu'il réalise. Donc c'est pas rien, qui d'ailleurs assez drôle. Oh, moi je le trouve assez drôle. Voilà. C'est vrai que c'est pas le meilleur, mais je trouve ça relativement drôle. Mandy Moore, hein, pour ceux qui aiment This Is Us.
This Is Us ! C'est mon projet de ce soir après le podcast.
D'accord. Est-ce que dans This Is Us, tu vas dire « Oh, c'est trop triste !»
Non, c'est... pas du tout. Surtout qu'il paraît que celui-là, le nouvel épisode est ultra chialant. Ça va aller.
Justement, le personnage de Mandy Moore dans Scrubs, c'est une très jeune qui devient la copine de JD. Et le truc qui fait qu'il rompe, c'est juste parce qu'en fait, quand elle rigole, elle ne rigole jamais. Elle dit juste « Oh, ça, c'est trop drôle !»
Et du coup, quand il casse, elle dit pas « ça c'est trop triste », elle pleure vraiment.
Oui, c'est ça c'est la blague qui joue. Ça, c'est... Ce qui est étrange, c'est que quand on a rompu, en fait, elle a pas dit « ça c'est trop triste », elle a juste pleuré réellement. Et là, on sent le côté un peu salaud de JD, parce que il est quand même indécis, hein, avec Elliot pendant tout le long, c'est pire que Ross et Rachel. Non, justement, ils font la blague de Ross et Rachel dans Scrubs. Et pour ceux qui aiment The Americans, j'espère que vous aimez The Americans, parce que bon, c'est quand même une très très bonne série, pas assez regardée. On a Kerry Russell pendant deux épisodes, qui joue une ancienne pote d'école d'Eliot en saison 6. Donc voilà, je vais pas tous les faire, mais on a des noms absolument géniaux. Et puis moi, Michael J. Fox reste marqué, parce que c'est un docteur qui a des tocs.
Docteur Kevin Casey.
Voilà. Qui compte les choses, c'est juste génial. Et ils ont utilisé son côté, justement, son Parkinson pour le personnage, et je trouve ça assez génial.
En quelques épisodes, je trouve qu'il arrive à toucher, enfin son départ, il est il nous détruit, quoi, je trouve. Il est vraiment en quelques épisodes, il arrive vraiment à toucher tout le public, et JD particulièrement.
Ouais. Alors, Scrubs, c'est aussi en fait un épisode musical.
Guy Love, oui.
Dans lequel on a Guy Love, hein, qui d'ailleurs maintenant, je crois qu'à chaque fois qu'on leur demande, ils le chantent. Hein, il n'y a aucun problème pour ça. Donc Zach Braff et Donna Faison, mais on a ça, on a Everything's Come Down to Poo. Hein, donc, de toute façon, qui présume que quoi que tu aies comme maladie, il faut d'abord vérifier tes selles, ce qui est en général plus ou moins vrai. Hein. On vérifie d'abord le sang quand même, plutôt que tes selles.
C'est quelle saison? C'est la première, ça?
Ça, l'épisode musical, non, c'est pas la première, je crois que c'est la troisième, je vérifie.
La troisième.
Je dirais ça. En fait, non, c'est la saison 6.
Et du coup, c'est un bel exemple de VO... pour l'instant mieux que VF, parce que celui-là en VF, d'ailleurs ils l'ont pas traduit, il me semble, en VF celui-là.
Non, ils n'ont pas traduit, ils n'ont pas voulu le faire. En fait, c'est pour vous donner un petit inside, on leur avait demandé et ce sont les doubleurs qui ont refusé.
Ouais, tu m'étonnes.
Voilà. Mais bon,
quand ça aurait tout gâché, je pense.
Ça aurait tout gâché. Mais ils auraient quand même le respect de la série. Donc ce musical là, donc l'épisode 6. La saison 6, dans lequel Judy Reyes qui joue Carla, qui était jusque là dans Devious Maids, c'est ça?
Ouais,
c'est ça. Voilà, ouais.
Qui donc temps annulé. Elle passe l'épisode tout le temps assise ou quasiment. Elle ne bouge pas beaucoup parce qu'elle s'était fracturée le bassin. Donc ce qui est assez cool, c'est pour ça que justement là-dedans elle est un peu moins... La scène de danse il y a une scène de danse dans laquelle elle est justement où Turk n'arrive jamais à savoir si elle est dominicaine ou si
elle est portoricaine.
C'est ça, elle est dominicaine mais en fait elle est portoricaine ou mexicaine, enfin il mélange tout, et là il y a une espèce de petit tango, mais ça c'est un truc qui a été tourné par la suite, mais c'est un épisode qui est parfait de bout en bout en fait. Et ils expliquent ça comment? En fait, ils expliquent ça par un cas médical, encore une fois. Une personne arrive aux urgences et tout ce qu'elle entend, elle a un problème qui fait qu'elle entend tout le monde, comme dans une comédie musicale, elle entend tout le monde chanter. Peu importe ce qu'on lui dit, genre les pires atrocités vont venir de faire en chantant, et ça va passer. Et on sait qu'elle guérit au moment où... Mais en fait, il ne chante plus. Donc ça, c'est encore une autre façon de gérer le côté médical. C'est un épisode à voir qui peut se voir très facilement sans avoir vu le reste de la série. Enfin, oui, en tout cas, je pense qu'on peut le prendre à part, mais c'est une spécialité américaine, les épisodes musicaux.
Et... Ouais, c'est pas bien réussi, quoi.
Pardon ?
Ils sont pas toujours réussis.
Ils sont pas toujours réussis. Là, franchement, moi, je crois que la plupart des chansons, je dois les connaître par cœur. Et ça énerve des gens. Mais je pense que vous savez pourquoi, hein. On commence à chanter des chansons que les gens ne connaissent pas, et puis d'où ça sort, on ne sait pas pourquoi.
On dirait moi avec Crazy Girlfriend.
Oui, bah, c'est un peu plus difficile à les retenir toutes, hein, celle-là. On a aussi un épisode un peu spécial. Après, je vous laisserai aussi vous donner votre épisode qui vous a marqué, un épisode un peu spécifique, dans lequel, en fait, on a les personnages de Un Rue Sésame. Il y a des marionnettes en fait qui sont dedans, qui sont là, malades, certains qui sont là pour aider niveau médecine, et il y a un moment qui moi me reste, mais alors marqué absolument, le diagnostic du j'ai mal dans mon ventre, donc ça c'est la marionnette qui le dit, et il lui montre la radio, on a trouvé pourquoi, vous avez une main, on
voit. Une main.
et on voit la radio avec la main scannée, je trouvais ça, mais c'est vraiment très drôle. Et qui c'est qui souffle sur sa manette? C'est Pauline, je l'ai vu.
Ah, merde.
Voilà, donc pour moi, ça c'est le musical et cet épisode-là font partie des épisodes qu'on peut montrer à part et qui montrent à quel point Scrubs peut aller de l'émouvant au super drôle très très facilement. Je sais pas, toi justement, Florian, est-ce que t'as un épisode en particulier ou pas du tout? Sinon, je pense à quelqu'un d'autre.
Moi j'ai pas d'épisode particulier spécifiquement parce que je les ai pas revus, et spécifiquement parce que voilà, les mémoires, voilà, c'est enfin, les mémoires, c'est vraiment de la diffusion originale, quoi.
Et donc, Pauline, toi, tu as un épisode ou pas, ou je suis tout seul?
Non, le premier qui me vient en tête, en fait, c'est le dernier de la saison 8.
Oui.
Parce que je trouve que c'est très compliqué de finir une série.
Oui.
Pour le coup, cet épisode est juste parfait, en fait. C'est tout ce qu'il faut pour qu'on puisse pleurer, pour nous donner une fin, enfin un beau point final, ce qui aurait dû être un point final en tout cas, ouais. Que ce soit de la relation avec Cox, il n'y a rien qui change, mais en même temps tout continue, et ça je trouve que ça fait du bien.
C'est un peu tout ce qu'espérait pouvoir faire OMS sur Mother avec sa fin, quoi.
Voilà.
Donc ça réussit.
Ouais. Hein,
mais c'est une fin réussie pour certains en même temps.
Non.
certaines personnes aiment la fin de OMS sur Mother.
Qui sont-ils? Donnez les noms.
Je pense qu'il faut d'abord vérifier check de poux. Hein.
C'est une maladie grave, c'est sûr.
Oui. Alors toi Wyatt, c'est quel épisode? La fin aussi?
Oui, la fin, c'est pas l'un de mes préférés, mais c'est évidemment l'un des meilleurs. Mais pour moi, ce sera... Il y en a quelques-uns, mais ce sera toujours le 3-14, celui avec Brendan Fraser.
Oui.
Et il y en a un autre que j'aime beaucoup aussi, c'est celui où la foi de Turk est remis vachement en question. C'est un épisode de Noël, il me semble, je me souviens. Et je le trouve très bien, enfin très réussi, très très réussi.
Je pense que d'ailleurs il s'appelle My Faith ou un truc comme ça, ça doit vraiment être un rapport avec la foi, et il pose vraiment des questions qui font mal.
Il y en a beaucoup qui parlent de la foi et de la religion. Il y a celui aussi où il y a une petite fille qui se fait poignarder, et du coup à chaque fois Dr Cox il fait chier Laverne sur ça, il lui dit il lui parle de Dieu ou je sais plus quoi, de Jésus, qu'est-ce qu'il fait là Jésus, et en fait au final je sais pas si vous l'avez vu, mais oui. Au final il découvre une tumeur grosse comme une balle de golf qu'ils auraient pas découvert autrement, quoi, et ça lui sauve la vie. Et on voit que Laverne s'énerve, quoi, dans cet épisode, parce qu'on remet en question sa foi, et je trouve que la série traite très bien de la question de la religion.
Oui, de ce que ça peut apporter comme conflit, autant comme solution, voilà, c'est comme quoi il faut pouvoir les accepter. Ouais. C'est vrai que c'est un épisode qui est assez, assez marquant et pas non plus très facile à voir. Je pense que, par contre, à l'inverse, parce que quand on parle d'une série qu'on aime, on n'arrive jamais à dire un épisode qu'on aime moins ou qu'on aime vraiment pas, ou on a tendance, limite, quand on fait un intégral, à passer. Moi, il y a un épisode, je sais pas pourquoi, j'ai vraiment du mal avec. C'est un épisode où tout se passe dans l'histoire que raconte Cox à son fils, et ça se passe dans une espèce de Moyen-Âge.
Et c'est le dernier épisode de la saison 7, et pour le coup je peux en parler parce que celui-là je l'ai vu pour préparer le podcast. Ouais. Et c'est vrai que c'est le dernier épisode avant que la série fasse le passage de NBC à ABC. Mm-hmm. Et voilà, enfin là, si clairement la série avait été annulée par NBC et que c'était vraiment le dernier épisode de la série, pour moi ça aurait pas été du tout satisfaisant, étant donné que... Ah non, pas du tout. Et j'ai vraiment vu ça comme, même comme un épisode normal, mais c'était beaucoup, même si ça a été réalisé par Zach Braff, comme beaucoup d'épisodes de la série, c'était beaucoup trop forcé dans les clichés du conte, etc. Je pense que c'était, entre la saison 7 et la saison 8 de Scrubs que j'ai vu, ça m'a rappelé à la fois toutes les limites de la série qui ont fait que je l'avais arrêté à l'époque, et tout ce qui fait que la série reste super forte et que c'est beaucoup rattrapé en saison 8, quoi.
Ouais,
mais je comprends, après avoir vu l'épisode, je comprends pourquoi t'as du mal avec ça, parce que faut aussi dire ce qui est, il y a un monstre à un moment, il y a une espèce de monstre de fumée, etc. Ouais. Même pour un épisode de 2007, c'est absolument honteux au niveau des effets visuels.
En dehors des effets spéciaux, c'est même ce que ça apporte. en fait. Ce que ça apporte à la série, ça n'apporte absolument rien, contrairement absolument aux autres rien. Épisodes.
Juste, c'est un épisode, c'est comme quand les Simpsons se déplacent dans un pays, en fait. C'est des trucs, voilà, on va se déplacer dans un pays, on va s'amuser avec la culture, et là, ils s'amusent avec le genre de l'heroic fantasy.
C'est ça, parce que...
Sauf qu'ils n'ont rien à en dire.
Non, ils se sont même amusés avec le genre de la sitcom, en se moquant, en faisant les vieilles sitcoms façon années 80.
My Life Between Four Walls.
Voilà, et justement, là, c'est... Là, par contre, c'était très juste. C'était drôle, c'était touchant. Mais là, pour moi, c'est un épisode qui est raté. C'est pas l'épisode par lequel je pourrais montrer Scrubs en étant fier d'aimer Scrubs, quoi. Vraiment.
Ce qu'il faut se rappeler, c'est que la saison 7, elle a subi la grève des scénaristes en 2007. Et du coup, c'est pour ça qu'elle est un peu moins bonne aussi.
Oui, non, je suis d'accord, mais les autres épisodes ne m'ont pas autant déçu ou autant... à ce point-là, là, c'est vraiment, je te dis, quand je regarde une intégrale, je le regarde hein, parfois, mais il y a des moments où je dis, ah, c'est celui-là, hop, je le zappe. Mais vraiment, hein.
Ah oui, ouais, à ce point-là.
Ouais, non, c'est à ce point-là, c'est un nom, je vais me faire chier.
Ouais, c'est, enfin, je suis en partie d'accord avec toi, parce qu'il est pas vraiment génial cet épisode.
Voilà, et toi, t'en as un autre ou pas forcément, c'est pas obligatoire.
Qui m'a déplu, j'ai pas vraiment d'exemple. Enfin, j'en ai pas vraiment un qui me vient en tête, mais. Je crois qu'il n'y en a pas vraiment qui m'ont déplu. Enfin, ouais. Déplu, c'est un mot un peu fort, quoi. Parce que bon, tous les épisodes m'ont plu, quoi. C'est vraiment.
Mais enfin, ça peut arriver, comme... hein. Tu sais, dans toutes les séries, toutes ces confondues, il y a toujours un moment donné où il y a un épisode, c'est. Ouais, non, ça fait pas Scrub, ça fait pas voilà, Fred, ça fait pas machin. On sent qu'il y a un. Oui, c'est comme tu disais, Florian, c'est forcé, quoi.
Mais je pense que les dernières saisons étaient forcées parce que, comme tu l'as dit plus tôt, il y avait énormément de... T'as sorti les audiences tout à l'heure, enfin tu as dit que tu avais sorti les audiences.
Je vais y aller juste après, en fait, mais, parce que ça, je pars sur le côté, ça a déplu pour partir sur un truc qui va fâcher un peu. Et donc toi, Pauline?
Alors moi, celui que j'ai pas tellement aimé, c'est l'épisode 14 de la saison 4 avec Colin Farrell. Je trouve qu'il apporte rien du tout.
Mais l'Irlandais.
Il s'est battu.
Voilà, c'est ça. Je trouve que c'est Colin Farrell dans le rôle de Colin Farrell. J'ai l'impression que c'est un épisode en hommage ou à la gloire de l'acteur. Et je trouve qu'il apporte pas grand chose, que ce soit en termes d'évolution scénaristique ou. On ressent rien pour le personnage, en fait, de Colin Farrell, je trouve.
Ouais, non, moi je suis d'accord. Bon, j'en suis pas au point de celui avec le côté avec fantasy, mais effectivement. Il est dispensable. Toi, Cécile, justement, comme tu l'as vu entièrement, est-ce que, même si tu te rappelles pas toi, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué, mais dans le mauvais sens ou pas?
Moi, en épisode qui m'aurait marqué parce que ça ressemblerait pas à Scrubs ou quoi, je pense que j'ai pas assez la fibre fan. Il y a pas quelque chose qui m'a frappé comme dans le bon sens. Comme je disais, l'épisode que j'ai retenu, c'est celui avec Brendan Fraser. En mauvais, j'ai pas un épisode qui me vient parce que j'ai déjà du mal à retenir tout. Alors,
Par contre, Elodie, là, ça va être un peu difficile pour toi, je pense.
Alors, je serais même pas capable de me souvenir d'un épisode en particulier. Alors, tu sais, moi.
T'as bien fait de tomber malade aujourd'hui, comme ça, je te fais pas trop parler.
C'est gentil, merci. Ah, bon,
c'est un peu par la force des choses, mais bon, voilà. Non, mais justement, donc, dans les trucs qui déplaisent, les audiences. Hein, les fameuses audiences. Il faut savoir que donc dans les. Ça a été en pendant de scie, parce que la première saison faisait une moyenne de 11,2 millions, ce qui sur NBC est quand même très très bien. La saison 2 est celle qui a le mieux marché avec 16 millions de moyenne. Par contre, en saison 3, c'est donc justement, là ça commence à redescendre, on est à 10,4 millions. Et ça continue comme ça. On passe à 6,9, 6,4, 6,4, 6,4. Donc jusqu'à la saison, donc de la saison 5 à la saison 7, ils sont à 6,4 plus ou moins. Ce qui est quand même pas top, top, top. Et alors, la saison 8, 5 millions. Et la saison 9, 3,80.
C'est
voilà, bon.
Ça prouve les bons goûts des gens, quoi. La saison 9, c'est pas Scrubs.
Voilà.
Et non seulement c'est pas Scrubs, Et c'était le mardi soir, couplé avec Better Off Ted d'ailleurs, si je me souviens bien.
Ouais. Better Off Ted,
ils devaient en plus lancer leur propre série, quoi.
Ouais. Ça, c'est assez dommage. Donc, il y a 13 épisodes, 19 pour la saison 8. La saison qui a le moins d'épisodes est la saison 7, hein, donc, justement avec la grève des scénaristes. Donc, et 11 épisodes. Et sinon, ça tournait entre 22 et 25 épisodes, ce qui n'arrive quasiment plus maintenant d'ailleurs. Hein. Quand on a 22, on est content. Oui, c'est comme ça.
Général, c'est 13, quoi.
Alors, par contre, ce qu'il faut noter aussi, c'est que la saison 8, ils ont essayé de relancer. On sent que c'est vraiment c'est le dernier truc qu'on essaie de relancer. Donc, on a eu des webisodes, donc une espèce de... Oui, c'est pas vraiment une websérie, ce sont des compléments qui, parfois, ajoutent des choses... dans les épisodes de la saison 8, hein, parce que quand on les regarde, on voit pourquoi ils discutent de ça, donc c'est un complément assez intéressant, c'est pas juste là pour faire joli. Ils ont essayé d'ajouter des personnages dans lesquels on peut retrouver Dave Franco, on peut retrouver Elisa Coop, il y a Kerry Bichet qui peut être retrouvé dedans.
Il y a Aziz Ansari aussi.
Aziz Ansari, il y a, je ne sais plus son nom, mais c'est qui justement joue Sunny Delight. Je ne sais plus son nom. Qui a une voix, c'est pas sa voix. C'est pas sa voix de cartoon, ça c'est une autre.
C'est Sunny.
Voilà, Sunny, c'est juste, elle est super gentille, elle est tout le temps contente, tout va bien. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle s'appelle Sunny, parce que ses parents ont trouvé qu'elle était comme un rayon de soleil.
C'est elle qui réalise les webisodes, enfin, le personnage qui filme les webisodes d'ailleurs.
C'est Sonal Shah, je sais pas ce qu'elle a fait d'autre en fait.
J'ai été voir sur IMDb, et pas grand chose en fait.
Ouais, elle a pas fait grand chose.
Ça, elle a pas tourné. Ouais.
Mais donc Aziz Ansari, qui est quand même relativement assez vite viré.
Exactement, il s'est fait virer comme une merde en plein milieu de la saison, et moi je dois m'avouer surpris, parce que moi je savais quasiment rien de la saison 8, parce que ça m'avait totalement éludé, et j'ai été surpris de le retrouver là, et j'ai été surpris de voir avec quelle violence, non seulement il traite son personnage, et avec quelle violence il s'en débarrasse en fait, c'est-à-dire qu'à un moment il merde grave, à un moment on apprend oh merde il est en fait il est feignant, donc c'est un gros défaut au personnage, donc c'est une feignasse, et il est congédié pour aller sur Parks and Recreation, quoi, ce qui est c'est assez hallucinant en fait de revoir
à l'époque on se dit ben voilà c'est vraiment viré comme un malpropre, et puis après enfin on le retrouve parce que globalement il avait une autre série qu'il attendait et qu'il préférait, quoi.
Il y avait ça, mais en plus, un personnage comme celui qui est joué par Taran Killam, en fait, est réduit à une seule vanne. C'est-à-dire, c'est le personnage qui masse et qui est un tout petit peu touchy. Et c'est littéralement l'interne avec une seule vanne, quoi. Sachant que ce qui va advenir de Taran Killam plus tard avec le Saturday Night Live, c'est bizarre. Et d'ailleurs, c'est un testament de qualité de voir que malgré... Si on accepte Elisa Coop, malgré ce qui est fait des internes, que la saison 8 a la qualité qu'elle a, quoi.
Oui, bien sûr, bien sûr. Mais justement, j'avais parlé de Taran Killam, donc tu l'as fait pour moi. Parfait, j'ai plus besoin de le faire. vrai que ce sont des... et même dans les dernières saisons, on avait aussi... c'était pas une interne, mais là, c'était par rapport à Ted, justement. On a donc l'avocat très timide, qui, en fait, se révèle être un chanteur a cappella hors pair, qui d'ailleurs...
Dans
la vraie vie, et qui d'ailleurs c'est le groupe que l'on retrouve dans la série, hein, qui chante des chansons des génériques de séries, des pubs, etc., enfin plein de choses, et qui finit par être en couple avec Stephanie Gooch, qui est jouée
par ukulele girl,
voilà, qui est jouée par Kate Micucci, qu'on a pu retrouver dans comment ça s'appelle encore, dans Raising Hope, et maintenant dans la série historique là, enfin historique, faussement historique.
Another Period.
Another Mais Period.
T'es sûr que c'est elle est dedans, parce que je crois que c'est l'autre en fait qui est dedans.
Non, c'est Ricky Lindon, non ? Non, c'est Kate Micucci qui joue Stephanie Gooch et qui joue du ukulélé.
D'accord. Par contre, moi je l'ai vu dans Easy et c'était horrible.
Oui, mais Easy est horrible de toute façon.
Ah non, mais là j'étais choquée. Oh cool, ukulele girl. Oh mon dieu, mais non, mais qu'est-ce que tu fais, mais arrête, mais non, mais. Et c'était horrible.
De toute façon, ça va pas être très cool ce que je vais dire, mais ce que j'ai retenu de Easy, premier épisode, celle qui joue la femme, elle avait un joli fessier.
Oui, c'est Elizabeth Reaser en fait.
Voilà, c'est donc, tout ce que j'ai retenu. Le reste, ça m'est passé au-dessus de vraiment, mais alors.
Ah, moi, je voulais voir l'épisode avec Orlando Bloom et c'est celui avec Ukulele Girl. Et voilà, quoi, ça m'a fait mal. J'étais pas bien.
Tu l'as vu, tu en es revenu.
C'est ça. Ce qu'il faut retenir de Ukulele Girl aussi, c'est qu'elle a une chaîne YouTube où elle a son groupe, c'est Garfunkel et Oates. Ils sont très très drôles.
Elles ont eu leur propre série en 8 épisodes. Les deux premiers épisodes sont vachement drôles et j'ai jamais fini la série.
Elles sont encore ensemble. Hein.
Ouais, mais c'est ça. Et moi, je pensais que c'était une des deux en fait qui était dans Another Period. Donc tu m'apprends que
ce sont les deux. Aussi. Et ouais. Donc voilà. Tout simplement.
Mais Garfunkel et Oates, il y a une série qui est marrante qui a été faite sur IFC il y a deux ans ou trois ans de ça, en 8 épisodes, qui est pas mal du tout. Et il y a deux ou trois specials en fait pour Hulu qui sont un petit peu du même acabit en fait pour les fans de Mikuchi et Lindom.
Et alors, ce qui est très bien, c'est que tout seul, hein, parce que c'est comme ça le podcast, hein, c'est tout seul, on me fait la transition sur « Mais qu'est-ce qu'ils sont devenus ?»
Hein ?« Mais qu'est-ce que c'est pratique ?»
Voilà, oh c'est... Et on arrive presque à la fin, du plan. Globalement, quand on regarde, contrairement à Friends, où ça peut être un peu plus difficile de savoir ce qu'ils ont fait comme série qui a marché par la suite, enfin, quoique pour Zach Braff, c'est un peu différent... ils ont fait des apparitions, mais c'est vrai que je pense que c'est difficile de se détacher réellement du personnage. Hein.
Ah, oui.
Donc Zach Braff, il fait des apparitions de par-ci par-là, mais il n'a jamais vraiment eu de rôle titre. Je pense qu'il va en avoir un ici pour une série qui n'est pas encore acceptée, mais bon, on en parlera plus tard. Pardon ?
Dans Startup, il retourne à la télé dans
voilà.
La série Startup.
C'est ça, et donc par contre, pareil pour Sarah Chal qui a été pendant quelques épisodes dans How I Met Your Mother, justement.
Dans Cougar Town aussi.
Dans Cougar Town, oui, voilà.
Dans Undateable aussi, elle apparaît.
Pardon ?
Dans Undateable, elle fait un passage.
Voilà, ouais, bon, voilà, en gros, c'est passage. Il y a Donald Faison, bon, ici ça a été annulé, je pense, il n'y a pas si longtemps que ça, qui a été pendant 4 saisons dans The Axis.
Qu'est-ce que ça valait d'ailleurs ça ?
C'est une très très mauvaise série, moi j'ai trouvé.
En fait, c'est très inégal. Il y a des moments où ça peut être drôle, et des moments où ça peut être très lourd et ça te gâche tout.
T'as maté une grosse partie de la série ?
J'ai regardé toute la série.
Ah ouais, ok.
Parce qu'il y avait Donald Faison. et parce que malgré tout, les personnages, il y avait à un moment donné, j'arrivais quand même à un peu avoir un petit à m'accrocher, et puis quand ça a été annulé, j'ai fait. Ah oh bon, ça va alors. C'est genre ça bouffe.
On t'a libéré.
On m'a libéré. Bob Kelso, rien, je pense.
Ah si, c'est le papa de Jules dans Cougar Town.
Oui,
c'est
voilà.
C'est vrai.
Mais sinon,
il a 76 ans quand même.
On l'a vu combien de fois ? Encore une fois, c'est
ça. On le voit pas mal de fois.
Hein. Cougar Town, hein, ouais.
Oui, mais je parlais de rôles principaux.
Ah oui, alors là non.
Par contre. Neil Flynn, bon voilà, The Middle. Tu dirais yes.
Neil Flynn, ouais.
Dans Devious Maid. Et alors, John C. McKinley, qui lui est dans.
Ground Floor,
mais maintenant plus récemment. Comment il s'appelle encore ? Stan.
Stan Against Evil.
Voilà. Donc Stan versus Evil, c'est ça, non ?
Ouais, c'est ça.
Against Evil, qui vient de commencer il y a peu, et ça fait plaisir de le retrouver. Et alors,
c'est déjà commencé là ?
Le pilote, oui.
D'accord. Je croyais que ça allait être pour Halloween en fait.
Oui, mais tu sais qu'il y a certains.
Le pilote a été relâché un peu en avance.
Il y a eu un leak plus ou moins officiel, je crois. Donc,
Ouais.
Ouais, et c'est bien pour IFC en fait. Ouais. C'est cool.
Voilà. Donc, et franchement, ça vaut le coup. En tout cas, le pilote valait le coup. Je vais pas en parler plus parce que c'est pas le but, mais. Globalement, voilà, on se retrouve avec des personnages qui, là-dedans, bah, voilà, Ted, dans Cougar Town, mais un petit peu.
Oui, mais en plus, c'est Ted dans Cougar Town.
Voilà. Todd, je cherche.
Il fait du stand-up.
Voilà, donc il y a globalement, c'est une série, justement, c'est comme les séries, toutes les séries qui ont marqué, qui ont une forte identité. C'est difficile, justement, d'un instant détaché, d'arriver à faire quelque chose d'autre.
Surtout quand ça a duré aussi longtemps.
Neil Flynn pour The Middle, on arrive quand même à la saison 8, donc il y a quand même une saison, une série qui tient la route derrière.
Et honnêtement, je trouvais ça inimaginable. Pour le janitor, en fait, on voit le personnage du janitor et ce qu'on lui fait faire, je trouvais ça inimaginable qu'il ait une série à lui pendant 8 saisons comme ça.
Ouais, parce que quand on regarde voilà, dans une dizaine, on va dire à peu près voilà, 8-10 personnages principaux, il y en a peut-être un ou deux qui ont réussi à vraiment un peu plus s'en sortir. Quoi. Donc,
Après, Zach Braff s'en est quand même très bien sorti.
Après, il y en a qui font du cinéma. Ouais, mais... voilà, Zach Braff fait beaucoup de cinéma. Il fait des Vines aussi. Enfin, il a fait des Vines pendant un moment qui était très drôle au tout début de Vine.
Mais en même temps, pour toutes les grosses séries, j'ai l'impression que c'est ça aussi. Oui, quoi. Il y a plein de séries où tu regardes tous les acteurs, tu fais mais ils sont devenus quoi ? Enfin, tu regardes, par exemple, moi, je sais pas, Buffy. Dis-moi ce qu'ils ont fait, quoi. Alison Hennigan, oui, après elle a fait How I Met Your Mother, mais sinon les autres, ils sont devenus quoi ?
Mais Lisa Dushku, elle a fait énormément de trucs.
Voilà, Lisa Dushku, oui.
Ah, elle est pareil, elle est secondaire aussi quoi. Sarah Michelle Gellar, elle a pas eu la carrière qu'elle aurait pu avoir. Et elle a... En plus, elle est partie après, elle a arrêté les séries, elle est partie au cinéma.
Voilà, mais globalement, je pense que c'est.
Tu vois Friends, il papillonne un peu. Celle qui a eu la série la plus longue, c'est.
Courtney Cox,
voilà, Monica, j'allais dire Monica.
Elle en a eu deux, elle en a eu deux même de.
Oui, de c'est sûr, hein. Parce que Dirt a pas duré très longtemps. Cougartin a duré.
Ouais,
mais
quand même deux saisons, ça va quoi.
C'est vrai que Cougartin, six saisons, c'est quand même beaucoup plus dans la durée par rapport à souvent.
Mathieu Perilli qui enchaîne les séries d'une saison, quoique The Hot Couple. The Hot Couple fait deux saisons maintenant.
Et alors j'avoue que j'aime beaucoup The Hot Couple et la saison qui vient de commencer là est vraiment très très sympathique.
J'ai
jamais commencé la série.
Moi ce qui m'a fait rire, c'est d'ailleurs justement, bon, petit aparté encore une fois, c'est que The Hot Couple, le générique, dans la première saison de Friends, il le chante dans le café. Je sais pas si vous vous souvenez, souvent il chante un générique, ça fait ta ta la ta la ta ta la ta ta la.
Ah oui, d'accord. Oui.
Et ben ça, en fait, c'est la chanson de The Hot Couple, l'original. Et de voir qu'il le produit, le remake, qu'il joue dedans, je trouve que c'est assez joli. C'est assez rigolo. Donc voilà, globalement, je pense que par rapport à Scrubs, je sais pas si vous avez quelque chose à ajouter, mais on a fait un énorme tour. On pourrait encore en parler pendant des heures, mais c'est pas le but. Le but, c'est justement, si vous l'avez jamais vu, c'est regardez le pilote, au moins le pilote, s'il vous plaît. Je pense que voilà, c'est dès le pilote, vous vous accrochez. Je pense.
Il y a quand même quelque chose de très important qu'on a oublié, quoi.
Oui,
c'est la BO. Scrubs a quand même une BO de ouf.
D'ailleurs, on peut trouver. Bon, après, je sais pas sur d'autres, mais sur Spotify, on peut trouver complète. On peut la trouver complète et. C'est juste c'est une BO pour travailler, pour faire des choses qui est géniale, parce que ça mélange plein de styles et ça a fait découvrir des chansons. Ça m'a fait découvrir des chansons en tout cas là, que je connaissais pas.
Et le générique de Scrubs était vraiment cool. La chanson était cool, voilà, le coup de la radio à l'envers.
Ah, oui, ça c'est justement c'est. C'est voilà, Elizabeth Banks qui se dit ça fait depuis le début que je vois comme ça m'énervait,
ça m'énerve.
Elle retourne. C'est vrai qu'ils ont mis le truc à l'envers. Oui, il y a plein de choses comme ça. Le générique, il est marquant. Il peut être énervant parce que quand on regarde en toute la série en intégrale, on finit par la connaître par cœur. Avec parfois des petits changements. Hein. Il y a de petits changements sur le moment où ils ont mis la musique pour le générique.
Oui,
ils ont tenté une version allongée de quelques secondes où ils remettaient droite d'ailleurs la radio,
mais ils sont très vite revenus
à l'ancienne. Ouais.
Voilà. Et alors,
on est plus habitué maintenant aux séries avec des génériques aussi.
Et un truc qui pourrait vous faire accrocher en fait, parce que même si vous n'aimez pas les comédies ou vous n'êtes pas trop sitcom, un truc qui pourrait vous faire accrocher, c'est que c'est des plans séquences, c'est pas en public, il n'y a pas de rire enregistré.
Ah oui.
Et je sais qu'il y avait enregistré, ça peut énerver du monde.
Je vois pas de qui tu parles, franchement.
Hein, voilà, j'ai même pensé d'ailleurs pendant un moment le soap que l'on fait mettre des rires enregistrés dessus. Mais
quelle horreur.
Je le ferai pas. Mais voilà, c'est. Je pense que là on est au moins 4 à vous dire de la regarder et de la connaître. ou à nous rejoindre et à nous, bah, justement, à nous faire part de vos émotions sur la série, ce que vous avez aimé, ce que vous avez moins aimé, les choses qu'on a oubliées. Ça, c'est, ben voilà, il y a les commentaires pour ça, il y a Twitter, il y a le site, il y a plein de choses. Donc, je pense qu'on a un sujet qui parle assez à assez de monde, malgré ses audiences catastrophiques vers la fin, pour avoir un petit peu de réaction de votre part. Hein, parce que depuis deux saisons, on entend des petites réactions, et pas juste pour nous engueuler parce qu'on a dit des conneries. C'est quand même sympa.
Puis si vous réagissez souvent, des fois, vous débarquez dans le podcast, c'est magique.
Voilà, c'est au bout d'un moment, on finit par... Allez, viens discuter avec nous. Viens à l'école des champions.
Oui, viens, on est bien.
Te battre avec passion. Donc voilà, mais c'était n'importe quoi. Bref, merci à vous cinq d'être venus. Je pense que niveau son et connexion, ça n'a pas merdé, alors que j'avais super peur de ça. Merci Pauline et merci Wyatt, ben, pour votre première fois. Je pense que ça s'est pas trop mal passé.
Bon, merci pour l'invite.
Non, un plaisir.
C'est bien, c'est que derrière j'ai des chansons, alors que là il y aurait Docteur Série, j'aurais un truc en stéréo. Alors bah, merci Florian d'être revenu. Tu reviens quand
c'est mon plaisir. J'ai fini. Je tenais à vous remercier d'avoir fini Scrops grâce à vous, en fait, parce que sinon j'aurais probablement jamais. Ouais. Et d'ailleurs, on a tenu la promesse. On a tenu la promesse. La saison 9 n'existe pas. C'est pour ça qu'on n'en a pas parlé.
Voilà.
Bah non, il y a 8 saisons, on parle de 8 saisons.
Bon, Elodie, t'as pas eu beaucoup à dire, mais je pense que maintenant tu as une envie de revoir Scrubs ou de le voir de façon correcte.
Mais j'attends qu'il charge là, vous me donnez envie, je peux même pas le regarder. Mais je trouve que j'ai été parfaite dans le rôle de la plante verte et je mérite un Oscar. Voilà.
Décoré, magnifique.
Et merci Cécile pour même chose.
High five.
Voilà, c'est.
Ouais.
High five.
C'est vrai que c'est pas forcément le meilleur moment de venir dans un podcast quand on n'a pas bien vu la série ou on s'en souvient pas trop.
J'ai dit des trucs.
Mais oui, mais je ne dis pas. Mais donc merci justement d'avoir ne pas avoir été qu'une plante verte non plus.
Non, et j'ai été sympa, j'ai pas chanté trop.
Pas trop. Pas trop.
La prochaine fois.
Voilà, mais en tout cas, j'espère que de votre côté, vous avez envie de voir la série ou en tout cas de la re-regarder maintenant où vous a donné envie. Que ce soit ben, vous deux, hein, Elodie et Cécile, et puis...
Non, moi, je veux revoir Grand Floor.
De quoi ? Grand Floor ?
Moi, je veux revoir Grand Floor, mais c'est un problème récurrent.
T'es viré. Voilà. Tu viens pas pendant deux épisodes et tu viens pour m'emmerder avec Grand Floor.
Parce que Grand Floor, c'est le bien.
Pardon ? Florian ? Oui ? Ça t'a donné envie de quoi ?
Je laisse finir.
Oui, c'est fini. Elle a fini. Okay. J'ai décidé qu'elle avait terminé.
De mon côté, ça m'a convaincu de redonner une chance à Cougar Town. Donc voilà, pour dire à quel point ça m'a reconvaincu de redonner une chance aux séries de Bill Lawrence. En fait, Cougar Town, j'avais arrêté. J'ai envie de retenter. Donc.
Ben oui, tu joueras peut-être avec nous un jour à Pelican.
Je ne vois pas de quoi.
Le pire, c'est que je savais que ça ferait ça, mais je savais pas que ça ferait ça en stéréo.
C'est la presse. Il n'y a pas Romain en plus.
Non, il n'y a pas Romain. Bon, je pense que c'est tout. On va finir par le mot de la fin. Et je pense que là, le mot de la fin, il est tout trouvé pour ceux qui aiment vraiment, vraiment, vraiment Scrubs.
Non, il n'y en a qu'un.
Ben oui, il n'y en a qu'un seul. Pardon ?
Ego !
Ego ! C'est le truc que, justement, JD hurle quand on le fait voler. Hein, parce que c'est un gamin. Mais moi, je vais le dire juste en français aussi, c'est « Je suis un aigle !» Il le dit exactement comme ça, et je trouve que c'est très drôle aussi. Ça fait super gamin. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres mots que vous voulez, sinon on termine et on coupe.
Poulette. Non.
Ah,
si. Je trouve qu'il y a une réplique de Cox qui est tellement vraie.
Oui.
C'est sur le porno.
Ah, oui.
Où il dit je suis sûr que si on enlevait tout le porno sur internet, il resterait plus qu'un seul site sur le web et qui s'appellerait qu'on nous ramène le porno.
Qu'on nous ramène le porno.com. C'est ça.
La meilleure réplique de la série.
Et toi, Wyatt, non, Eagle, tu restes sur l'aigle.
Eagle. Non, moi j'aurais dit qu'est-ce qu'il y a deux pouces et qui s'en fout.
Ah, quel saut.
Quel saut.
Florian, tant qu'on y est.
Rien à rajouter.
Rien à rajouter.
Hey champ, what has two thumbs and doesn't give a crap? Bob Kelso, how you doing?